Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
C'est une semaine particulièrement chargée qui s'est ouverte au Vatican. Le pape François a annoncé ce lundi matin la date de la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II, le 27 avril prochain. Il a également institué par un chirographe le Conseil des cardinaux, chargé de le conseiller dans le gouvernement de l'Église et d'étudier un projet de révision de la Constitution apostolique Pastor Bonus. Une première rencontre des huit cardinaux doit débuter mardi. Vous entendrez dans quelques instants le père Lombardi qui s'est exprimé devant les journalistes. Dans cette édition également, l'appel du Saint-Père en faveur de la paix. Il ne peut exister aucune justification religieuse à la violence, a-t-il déclaré devant les participants à la rencontre de Sant'Egidio, qui rassemble actuellement à Rome des centaines de personnes venues des différents continents. Bienvenue dans ce magazine. Le pape François, officiellement institué ce lundi par un chirographe, le Conseil des cardinaux, chargé de le conseiller dans le gouvernement de l'Église et d'étudier un projet de révision de la Constitution apostolique Pastor Bonus de 1988 sur la Curie romaine. Ce groupe, coordonné par le cardinal hondurien Oscar Maradiaga, a été créé par le pape le 13 avril dernier. Il possède donc désormais un statut. Ce conseil se réunira pour la première fois autour du Saint-Père les 1er 2 et 3 octobre. Une rencontre qui suscite un grand intérêt et de nombreuses interrogations. Le Vatican a déjà fait savoir qu'il s'agissait d'une première réunion consultative, la première d'une série, et que les participants s'en tiendront aux critères de réserve quant au contenu des consultations. Le père Lombardi a également indiqué la semaine dernière que ce groupe avait été constitué pour offrir des conseils au pape et non pour prendre des décisions. Le directeur de la salle de presse du Saint-Siège rencontrait ce lundi les journalistes. Marie Duhamel était sur place.
Avec ce chirographe, le pape donne donc un cadre institutionnel à ce groupe de cardinaux appelé à le conseiller. On le surnommait le G8, le voilà officiellement nommé le Conseil des cardinaux. Le Vatican se met à l'écoute des églises locales, tous archevêques d'un diocèse venant des 5 continents. Ces cardinaux sont au nombre de 8, mais ce chiffre pourrait être modifié si le pape le désire. Selon ce chirographe, François pourra consulter ses cardinaux en groupe, comme cette semaine, mais aussi individuellement. Place à la collégialité. Outre les synodes ou les réunions avec les chefs des dicastères, le pape se dote maintenant d'une nouvelle instance de nature consultative. Elle n'appartient à aucune architecture définie, n'a aucun rapport avec les autres institutions. Ce conseil des cardinaux fonctionne comme un électron libre en lien direct avec le pape. Concrètement, comment travailleront-ils ? Pour leur première réunion, le rendez-vous est fixé à 9h30 ce mardi dans la bibliothèque des appartements pontificaux. Le pape les accueillera avec un bref discours, mais il passera surtout ces 3 jours de travaux à les écouter. Les cardinaux ont fait parvenir au secrétaire de leur groupe quelques 80 documents émanant des conférences épiscopales, des dicastères. Le secrétaire du Conseil des cardinaux les a compilés. Ils en discuteront maintenant ouvertement et en italien. Aucun thème n'est à l'ordre du jour, puisqu'il s'agit justement de les définir, a expliqué le père Lombardi. Le directeur de la salle de presse du Saint-Siège qui a donc prévenu les journalistes. Ne vous attendez à aucune déclaration, à aucun communiqué. C'est un travail de longue haleine qui commence.
Le père Federico Lombardi, interrogé en français par une journaliste de la télévision France 5, est également revenu lors de cette conférence de presse sur l'utilité de ce groupe consultatif. On l'écoute.
Je ne pense pas qu'il soit une chose révolutionnaire. C'est, comme il a été dit très clairement par le pape, la réponse à une demande explicite des réunions des cardinaux avant le conclave pour avoir un gouvernement de l'Église qui soit moins romain, pour ainsi dire, c'est-à-dire moins limité à une perspective centraliste et plus attentif aux attentes, aux sensibilités de l'Église dans les différentes parties du monde. Alors ça, c'est un rééquilibre, on pourrait dire peut-être, de la méthode des consultations et des conseils du pape dans les gouvernements de l'Église, d'entendre mieux les attentes des différentes parties de l'Église, des différents continents, et pas seulement à travers l'expérience romaine.
Pourquoi lui, le pape François, est le mieux à même à mettre en œuvre cette collégialité?
Bon, mais les papes qui l'ont précédé ont institué, par exemple, les synodes. Ça, ce sont des instruments fondamentaux, des consultations et des participations du corps épiscopal à la vie des Églises. Et Jean-Paul II a fait les synodes continentaux. Alors, il y a des synodes spéciaux. Alors, il y a des pas dans un chemin. Et actuellement, avec les congrégations de cardinaux, on a fait une hypothèse nouvelle, d'un organe nouvel qui est ce conseil pour aider le pape dans sa consultation. Ça, c'est nouvelle, c'est vrai. Nous espérons beaucoup de ça, le pape espère beaucoup naturellement, mais il faut vérifier avec l'expérience l'intégration aussi de cet instrument et son utilité au-delà de ce qui viendra de la renouvellement du synode ou d'autres organisations de la curie comme ça.
Le père Federico Lombardi, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Jean XXIII et Jean-Paul II seront canonisés le 27 avril prochain, la fête de la Divine Miséricorde. Le pape François l'a annoncé ce lundi matin lors de son premier consistoire ordinaire public. Caroy Wojtyla sera ainsi déclaré saint 9 ans seulement après sa mort. Une première dans l'histoire moderne, Benoît XVI ayant choisi de ne pas tenir compte du délai obligatoire de 5 ans pour ouvrir la cause de béatification et de canonisation de son prédécesseur. Angelo Giuseppe Roncalli sera lui canonisé sans qu'un second miracle n'ait été attribué à son intercession, là aussi fait rarissime. La procédure a été simplifiée sur volonté cette fois du pape François, qui a signé son décret de canonisation selon la procédure ex certa scientia. Dans l'avion qui le menait fin juillet de Rio de Janeiro à Rome, à son retour des Journées mondiales de la jeunesse, le Saint-Père avait évoqué avec beaucoup d'affection la figure du pape Roncalli, le qualifiant de bon prêtre de campagne. La canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II, ensemble, avait-il ajouté, est un message pour l'Église. Nous avons recueilli la réaction du cardinal Paul Poupart, président émérite du Conseil pontifical pour la culture. Il a été le collaborateur des deux papes qui seront canonisés l'année prochaine.
Pour moi, c'est vraiment une très grande joie, puisque le pape Jean XXIII, le bon pape Jean, a été le premier pape dont j'ai été le collaborateur, auprès duquel j'ai travaillé à la secrétaire d'État avant le concile, et donc au début du concile, et puis ensuite, donc, le pape Jean-Paul II, auquel j'ai dit un jour, à un déjeuner de travail, quand il venait de me confier le conseil pontifical de la culture qu'il venait de créer, j'ai dit, vous entrerez dans l'histoire comme le pape qui institutionnalisait dans la curie, donc les grandes intuitions du concile sur les laïcs, sur la famille, justice et paix, et aussi la culture. Et donc, l'association de ces deux papes a donc pour moi, un motif supplémentaire de joie. Je trouve que c'est une décision très heureuse parce que je crois qu'on peut dire que le pape Jean XXIII, donc c'est celui auquel nous devons le Concile Vatican II, et le pape Jean-Paul II, c'est celui auquel nous devons, l'application des décisions du Concile avec une grande ferveur. C'est à la fois le bon pape Jean et puis donc Jean-Paul II, ce géant de la foi, comme on a pu le dire, pape du grand large.
Lors de son retour de Rio de Janeiro fin juillet, le pape François disait que cette canonisation commune est un message pour l'Église. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, selon vous?
Pour l'Église, cela veut dire que nous devons suivre les orientations que le Concile nous a données et les vivre dans, la fidélité à ce qu'a été l'inspiration donc du pape Jean XXIII et l'application qu'en a donné avec constance le pape Jean-Paul II. Parce que je dirais que dans notre temps quelque peu incertain, inquiet, tourmenté, nous avons de quoi, j'allais dire, appuyer notre foi, je le dis en cette année de la foi, en contemplant ces hommes de Dieu qui ont été des hommes de foi, d'espérance et d'amour, et qui ont été des hommes de Dieu qui ont incarné en leur chair, comme dans leur message, ce message de la bonne nouvelle qui est aujourd'hui repris par leur successeur.
Jean-Paul II est celui qui avait béatifié Jean XXIII, en même temps d'ailleurs que Pie IX.
Oui.
Et là, nous allons donc avoir une canonisation de Jean-Paul II et de Jean XXIII.
Oui.
On sait que à la fois le procès en canonisation de Jean-Paul II a été extrêmement rapide et que la canonisation de Jean XXIII se fait de façon simplifiée puisque François n'a pas attendu de miracle.
Justement, j'allais dire, c'est oui. Encore un nouveau lien avec le pape Jean XXIII, parce que je me rappelle, moi j'étais donc un son jeune collaborateur, et comment à la surprise de tous, il avait annoncé la canonisation du bienheureux Justinien de Venise, dont il avait été le patriarche, et il avait annoncé qu'il le ferait par équipollence. Vous pouvez chercher dans tous les dictionnaires, dans toutes les langues, ce mot qui n'existe pas. Ça voulait dire donc qu'il n'y avait pas de miracle officiellement reconnu, mais qu'il y avait une reconnaissance vraie, grande, de sainteté. Vous voyez que ces deux papes, si je puis dire, se rejoignent dans cette manière qu'ils ont de pratiquer aussi le ministère de Pierre, de ne pas être emprisonné dans des dispositions canoniques, mais chacun à sa manière de dire donc leur liberté d'interpréter, si je puis dire, le sensus fidei, comme on dit toujours, le sentiment, le sens de la foi du pape, du bon peuple. Vous savez, je peux vous raconter un souvenir qui me revient en mémoire. Le lendemain de sa mort, j'avais été invité par cette émission 5 colonnes à la une, première interview que j'en ai à la télévision, et je me rappelle que dans la voiture, le taxi qui m'emmenait jusqu'à la RAI me dit « Papa Giovanni, Papa Buono, Papa Santo ». Donc, si vous voulez, dès le lendemain de sa mort, sans attendre des grandes décisions, le bon peuple disait « Ben voilà, le pape Jean, Pape bon, Pape saint », et il ajoutait avec donc cette manière romaine, « Ulo come colonna lo fanno più ». Alors, comme ça, on n'en fait plus. Eh bien, oui, l'histoire, heureusement, l'a démenti. On en fait encore.
Des propos recueillis par Olivier Bonnel. Des centaines de personnalités religieuses, politiques et culturelles venues de nombreux pays sont actuellement réunies à Rome à l'initiative de la communauté Sant'Egidio. La rencontre sur le thème « Le courage de l'espérance, religion et culture en dialogue » s'est ouverte dimanche et s'achèvera ce mardi. Ce rendez-vous dans l'esprit d'Assise et dans la lignée du rassemblement voulu par Jean-Paul II en 1986 intervient dans un contexte international particulièrement tendu, guerre civile en Syrie, tensions politiques et violences en Égypte, multiplication des attentats contre les chrétiens, notamment au Pakistan. Le pape François, qui a multiplié ces derniers mois les prises de position en faveur du dialogue et de la paix, s'est adressé ce lundi aux quelques 300 participants à la rencontre de Sant'Egidio, soulignant une nouvelle fois la nécessité de mettre un terme aux violences et appelant les leaders religieux à être d'authentiques médiateurs. Xavier Sartre.
Non, nous ne pouvons jamais nous résigner face à la douleur de peuples entiers, otages de la guerre, de la misère, de l'exploitation. Le pape François appelle une fois encore à un réveil des consciences. Nous ne pouvons assister indifférents au drame des enfants, des familles, des personnes âgées frappées par la violence, a-t-il déclaré avec force lundi matin devant un parterre de laïcs et de représentants de différentes religions. On ne peut permettre que le terrorisme emprisonne le cœur de quelques personnes violentes pour semer mort et douleur. Citons Benoît XVI, le pape François a rappelé qu'il ne pouvait exister aucune justification religieuse à la violence, quelle qu'en soit la manifestation. Et il a exhorté à être vigilant afin que le monde ne devienne pas la proie de la violence contenue dans tout projet de civilisation qui se fonde sur le nom à Dieu. La paix est la responsabilité de tous, a précisé le Saint-Père. Et les leaders religieux ont un rôle fondamental à jouer. Ils doivent avoir le courage du dialogue, un dialogue tenace, patient, fort et intelligent qui peut vaincre la guerre et agir pour la construction de la paix, non pas comme des intermédiaires, mais comme d'authentiques médiateurs. Les intermédiaires, a souligné le pape, font des remises à toutes les parties en jeu afin de bénéficier d'un gain personnel. Le médiateur, par contre, est celui qui ne garde rien pour lui, mais se dépense généreusement jusqu'à se consommer en sachant que l'unique gain est celui de la paix. Le souverain pontife exhorte donc à instaurer dans le monde la culture du dialogue, qui est le chemin vers la paix, avant de conclure en demandant de continuer à prier pour la Syrie, le Proche-Orient et tous les pays en situation de conflit.
Parmi les thèmes abordés lors de ces journées organisées par Sant'Egidio, gratuité et marché, deux notions apparemment antinomiques, Mgr Ulrich, archevêque de Lille, rappelle l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église et l'apport que représente Caritas in Veritate, l'encyclique de Benoît XVI, particulièrement éclairante sur ce sujet.
La question a été introduite d'une façon tout à fait magistrale par le pape Benoît XVI dans l'encyclique Caritas in Veritate. Parce qu'il indiquait comment le don et la gratuité faisaient partie de l'économie. C'est-à-dire, ça n'est pas une sorte de supplément de générosité qu'on ajoute à un acte économique que l'on fait, c'est-à-dire une fois qu'on a gagné de l'argent, ma foi, chacun de faire ses générosités à qui il veut. Ça n'est pas cela dont il s'agit. Et l'originalité de la pensée de Benoît XVI sur ce point, ça a été de dire que serait une économie qui pourrait marcher sans que l'on consente à ce qu'il y ait de la gratuité dans son fonctionnement. Ça peut paraître un peu bizarre, on dit alors l'économie n'est faite que pour gagner de l'argent. Alors premier point, la doctrine sociale de l'Église dit toujours l'économie n'est pas d'abord faite pour gagner de l'argent, mais pour développer l'homme dans tous ses aspects, y compris culturels et spirituels. Mais le pape a dit une autre chose, il ne peut pas y avoir de fonctionnement économique s'il n'y a pas le don des personnes elles-mêmes. Dans une entreprise, si les gens se contentent de faire ce qu'ils ont à faire parce qu'ils sont payés, on peut douter du résultat humain de la chose. Mais si les gens s'investissent dans leur travail, parce que leur travail les intéresse, parce que dans leur travail ils sont reconnus humainement, parce qu'ils essaient de développer un certain nombre de capacités de plus en plus fortes de leur esprit, de leur intelligence, qu'ils se mettent au service d'un projet, alors il y a de la gratuité, c'est-à-dire qu'ils vivent, pour faire vivre leur entreprise, ils vivent bien au-delà de simplement la capacité de demander un salaire en échange d'un travail.
Autrement dit, le marché et la gratuité vont de pair ou doivent aller de pair?
Bien sûr, moi je crois qu'on se situe toujours, là encore, dans notre doctrine sociale, dans l'hypothèse d'un marché qui est libre, mais dans un marché où on ne fait pas tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, il n'y a pas de main invisible. La somme des intérêts particuliers n'égale pas l'intérêt général et encore moins le bien commun. Mais il faut qu'il y ait de la bénévolence de la part de chacun pour faire, dans la liberté d'entreprendre, un marché qui cherche la justice. C'est pas le marché qui de soi produit la justice, mais c'est les hommes qui interviennent dans le marché, qui sont capables de désirer que le marché crée de la justice, crée du développement culturel, du développement matériel, mais aussi du développement culturel, de l'égalité entre les hommes, et puis un développement spirituel, c'est-à-dire un développement qui n'enferme pas l'homme.
Des propos recueillis par Xavier Sartre. La rencontre de Sant'Egidio avait débuté officiellement hier en fin d'après-midi dans l'auditorium de la Via della Conciliazione, en présence notamment du président du Conseil italien, Enrico Letta, qui a appelé à prier pour l'Italie, à nouveau plongée dans la crise politique après la démission de 5 ministres de Silvio Berlusconi. La vitalité de l'Église ne vient pas des documents produits ni des réunions pour planifier et bien faire les choses. Ce sont certes des réalités nécessaires, mais elles ne sont pas le signe de la présence de Dieu. Pour ne pas se retrouver avec une Église seulement fonctionnelle, le pape François rappelle la nécessité de la paix et de la joie qui naissent aussi du jeu et d'une intégration des personnes âgées et des enfants. Le Saint-Père a tenu ses propos lors de l'homélie de la messe célébrée lundi matin à la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Le futur d'un peuple, a souligné le pape, réside dans ses personnes âgées et ses enfants. Un peuple qui ne prend pas soin de ses anciens et de ses enfants n'a pas de futur parce qu'il n'a aucune mémoire du passé et n'a aucune promesse pour l'avenir. Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site internet www.radiovaticana.va. C'est la fin de ce magazine. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va et sur notre page Facebook.